Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Sur ce podcast, je te propose un truc. Tant que je suis dans tes oreilles, tu fais quelque chose de bien pour toi. Tu peux ranger ta chambre ou ton appart, et si t'es pas chez toi, tu peux te redresser. Ça va te faire du bien. Vas-y, redresse-toi. T'inquiète, c'est pas bizarre, personne ne sait que je te parle. Je m'appelle Elio, c'est moi ton hôte, et je te souhaite un excellent épisode. Salut tout le monde, bienvenue dans cet épisode de podcast du dimanche 12 juin. Nous sommes actuellement jeudi 9 juin, il est 16h06, et à 17h, j'ai un coaching avec mon premier groupe de 12 gars trop chauds là, avec lesquels on est en train de tester la version alpha de ce fameux programme que j'ai nommé le Reboot Camp. Donc c'est un espèce de bootcamp pour hommes de un mois, si tu veux, où tu le suis depuis chez toi avec genre toute une restructuration de tes schémas de pensée. Donc c'est définition d'une nouvelle vision, utilisation d'outils pour l'organisation, installation de routines. On parle du corps, de l'esprit, des relations humaines, des meufs. On parle de plein de trucs comme ça, si tu veux, et c'est genre juste méga stylé. Je suis en train de suivre ça, de tester l'alpha, donc c'est ce qui vient juste avant une bêta, avec ces 12 mecs que j'ai choisis. Si c'est un truc qui vous intéresse, vous pouvez toujours me laisser votre email sur mon site internet. Donc vous allez sur mon site, vous allez sur la partie esprit, et vous pouvez me laisser l'email et je vous donne plus d'infos quant à la sortie de la version définitive du programme. Voilà, donc je suis refait, c'est une semaine très très intense, très chargée en émotions, et aujourd'hui, ben je me sentais un peu plus en forme que hier, parce qu'hier j'étais vraiment éclaté, je te jure, c'est très très intense en fait, coaching tous les jours, tu vois, pendant une heure et demie avec chaque groupe, et mais comme aujourd'hui j'avais de l'énergie, je me suis dit, vas-y, je vais le renregistrer, cet épisode de podcast, sur le fameux livre dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, qui s'appelle Food of the Gods, donc la nourriture des dieux. Ce livre, j'en ai entendu parler pour la première fois, sur le podcast de Joe Rogan. C'est Joe Rogan, c'est le plus gros podcasteur du monde. Il a signé un deal avec Spotify à 100 millions pour hoster son podcast sur Spotify et pas sur YouTube. C'est la plus grosse arnaque. Enfin, il s'est vraiment fait éclater, tu vois. C'était très mauvais deal pour lui. Il a une quantité... c'est le plus gros intervieweur de l'histoire de l'humanité, tu vois, grosso modo. Et ce mec-là, ce qui est marrant, c'est qu'il est considéré par certains comme étant... un mec de alt-right, tu vois, un mec genre d'extrême droite, parce qu'il était pas hyper fan des restrictions Covid, tu vois, il questionnait beaucoup, alors que c'est le mec le plus à gauche et le plus ouvert, en fait, le moins conservateur du monde. En gros, genre, il a invité Bernie Sanders, qui est un mec du Parti démocrate aux US, sur son podcast, tu vois, il invite plein de mecs de gauche, il invite des acteurs, des comédiens, il invite des scientifiques, il invite des sportifs de haut niveau, il a invité Mike Tyson, c'est lui qui a invité Elon Musk et qui a fumé un blunt avec Elon Musk, il y a eu cette vidéo peut-être que vous l'avez vue sur les réseaux sociaux, il a invité des psychologues, des philosophes comme Brett Weinstein, comme Heather Wader, Heather Haying, super biologiste évolutive, super professeur de biologie évolutive. Il a invité Jordan Peterson à plusieurs reprises. Je crois que Jordan Peterson, c'est le mec qui s'est le plus fait inviter sur le podcast. Et bref, de manière régulière, Joe Rogan fait référence à ce livre. Et moi, à force d'entendre parler de ce livre, je me suis dit, en fait, ça a l'air quand même assez trippé. Il faut que j'essaye de le lire. Donc, Food of the Gods. C'est un livre qui a été écrit par un mec qui s'appelle Terence McKenna, donc je vais revenir un petit peu sur l'histoire de ce mec-là, qui est Terence McKenna, dans lequel donc, est développée une théorie, une fameuse théorie, la théorie du singe défoncé. En fait, c'est une théorie qui, selon laquelle, la raison pour laquelle nous, êtres humains, possédons un niveau de conscience qui nous distingue du reste des animaux, ce serait parce que pendant une longue période, 3 millions d'années environ, et même plus en réalité, mais... en tout cas 3 millions d'années, y a des chimpanzés, en fait, ou alors l'ancêtre commun qu'on a avec les chimpanzés, qui ont mangé, si tu veux, des champignons contenant de la psilocybine. Donc, ça peut paraître un peu fou, tu vois, et c'est pas du tout une blague, c'est une théorie qui est développée de manière très très sérieuse dans ce livre-là. Enfin, une théorie, une hypothèse, c'est plutôt comme ça qu'on devrait l'appeler. Et donc, aujourd'hui, on va un peu discuter de ça, on va un peu parler de ce livre, qui, peut-être je devrais le préciser, ne parle pas que de cette hypothèse, c'est un livre qui parle... de la relation que les plantes forment avec notre culture. C'est un livre qui parle de la très ancienne tradition chamanique qui existe depuis des dizaines et des dizaines de milliers d'années jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est un chaman? Quel est le rôle du chaman? Qui parle de différents rituels où on va essayer d'étendre la conscience des individus ou d'aller chercher des états de conscience différents dans différentes cultures. C'est un livre qui parle beaucoup de différentes drogues comme l'alcool, le café, la cocaïne, l'héroïne, le LSD, enfin beaucoup de drogues psychédéliques. Donc les psychédéliques, c'est toute cette catégorie de drogues. Il me semble que tu as du coup la DMT, la psilocybine, le LSD et la mescaline. En fait, c'est les quatre grosses catégories de psychédéliques. Et donc, c'est un livre en fait, qui parle de comment est-ce que les plantes... en fait, on a bouffé juste des plantes psychoactives, donc des psychédéliques ou alors d'autres plantes psychoactives comme le café ou j'en sais rien, genre le pavot, tu vois, genre l'opium. L'opium et du coup l'héroïne, la morphine, tous ces trucs, c'est dérivé d'une plante qui s'appelle le pavot. Bref, on va parler de tout ça aujourd'hui et c'est parti. J'espère que c'est un sujet qui va vous plaire. Moi, c'est un livre qui m'a... La lecture du livre, j'ai trouvé très, très compliqué. Honnêtement, j'ai l'habitude de lire en anglais, mais pour le coup, c'était... Ah, oh, j'ai mis du temps. J'ai vraiment mis du temps. J'ai sauté certains chapitres parce que des fois, je voyais le chapitre et puis je me suis dit, en vrai, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Moi, j'avais surtout envie de me concentrer sur cette théorie, cette hypothèse que McKenna émettait. Mais... Donc, je ne vais pas vous faire un résumé complet du livre. Je vous le recommande seulement si vous êtes chaud en anglais. Ce n'est pas un livre que je donnerais dans n'importe quel moment. Autrement, vous allez juste, ça va vous dégoûter. Vous allez lire 3 pages, ça va vous prendre 1 an. Et puis, voilà. En plus, il y a beaucoup de notions de chimie, beaucoup de notions de botanisme. Donc, c'est très... d'un point de vue technique, c'est très compliqué. Et du point de vue de la forme, c'est écrit... Disons que c'est pas du Dostoïevski, tu vois, c'est pas en mode tu ouvres le truc et puis ça se lit juste absolument tout seul comme si chaque mot était à la bonne place, si tu veux. Parfois c'est un peu comme si le mec il était défoncé comme il l'avait écrit, bref. Bref. C'est parti, du coup dans un premier temps, je vais vous présenter l'auteur. Donc l'auteur Terence McKenna, je vais poser un petit peu de contexte dans tout ça. Vous êtes au courant que les États-Unis se sont engagés à un moment donné dans la guerre du Vietnam et du coup que justement pendant qu'ils se sont engagés dans la guerre du Vietnam, bah c'était toutes les monnaies du monde entier étaient indexées sur le dollar, ce qui fait que pour financer la guerre, ils ont imprimé une tonne de dollars, ce qui fait que toutes les monnaies du monde en réalité n'avaient plus de valeur et ensuite quand il y a des pays qui ont voulu du coup, c'est ce que j'explique dans ma vidéo sur pourquoi j'achète du Bitcoin, ensuite quand tous les pays ont voulu aller rendre les dollars qu'ils avaient pour récupérer l'or qu'ils avaient déposé dans les banques américaines, bah les US, au bout d'un moment, ils ont dit, en fait, les gars, on n'a plus d'or en fait, pour couvrir ces réserves de dollars parce qu'on a imprimé plus de dollars que l'or qu'on avait. Ça, c'est Nixon qui a fait l'annonce, qui a dit, le dollar n'est plus convertible en or. Et du coup, ça a juste mis un énorme bordel dans le système financier. Et c'est depuis ce jour-là, en fait, que toutes les banques centrales du monde, en fait, elles peuvent juste en freestyle imprimer un peu comme elles veulent avec des petits accords entre eux. Et c'est pour ça que ta monnaie, elle a de l'inflation. Et c'est pour ça que si tu gardes de l'argent sur ton compte en banque, bah, en réalité, c'est comme si tu accumulais de l'eau dans un seau troué parce que constamment, ton argent perd de la valeur. Et c'est pour ça qu'on est obligé d'investir dans de l'immobilier, dans des actions ou alors dans du Bitcoin, étant donné que le point fort du Bitcoin, c'est que sa réserve est strictement limitée et que donc personne ne peut décider de créer plus de Bitcoin. Alors évidemment, il y a le côté acceptation. Pour le moment, ça fluctue beaucoup. Tu vois, on a beaucoup de volatilité, mais on voit que la volatilité, avec le temps, bah, elle diminue. C'est-à-dire que là, il a fait un divisé par 2 ou par 3 récemment. Des divisés par 2, par 3, il y a 5 ans, c'était tous les jours en fait. Il y a 5 ans, c'était des divisés par 10, par 20 en fait, qu'on se prenait, des fois 40. La monnaie se stabilise de plus en plus. Et l'acceptation, bah, elle arrive de plus en plus aussi. Bref, tout ça pour dire, petite parenthèse Bitcoin. Dans tous les cas, pendant cette guerre au Vietnam, il y a un mouvement de contestation qui est né aux États-Unis. C'était en fait des civils américains qui ont trouvé un peu débile qu'on balance des frappes de napalm sur des petits Vietnamiens et qu'on les brûle, tu vois, et qu'on envoie de l'agent orange sur les forêts. Je ne sais pas si vous connaissez une boîte qui s'appelle Monsanto. Monsanto, c'est une boîte qui produit des pesticides, des semences OGM. Donc aujourd'hui, c'est le gros problème, si tu veux, qu'il y a eu dans plusieurs pays d'Amérique du Sud, parce que Monsanto s'est énormément étendu en Amérique du Sud, c'est le fait qu'ils allaient voir des paysans, ils leur disaient « Regarde, j'ai des nouvelles graines de maïs et elles sont résistantes aux maladies, t'as juste à les semer, si tu veux, et ensuite, tu mets notre désherbant, tu mets notre engrais, et ces graines de maïs, elles vont juste pousser 2 fois plus vite que toutes les autres graines de maïs que tu auras mises et du coup, tu auras un meilleur rendement. » Le paysan, il teste, il dit « Ah, effectivement, c'est pas mal !» Donc le paysan, ensuite, il utilise les graines de maïs, mais il est obligé, parce que ces graines sont stériles, ensuite, il est obligé d'aller racheter des nouvelles graines chez Monsanto. Il est obligé d'acheter tout les bails de Monsanto, donc les désherbants, tout ça. Donc c'est un peu un pack all-in-one. C'est comme quand tu commences à acheter un produit Apple. Enfin, c'est pas exactement pareil, mais c'est un peu dans la même idée. Et ensuite, quand le paysan, le jour où il a envie d'arrêter d'utiliser du Monsanto parce qu'il se rend compte en fait que les OGM, on n'en sait rien, en fait ça nous fait peut-être des cancers ou des trucs comme ça. Ben, il peut pas, parce que tout son champ il a été contaminé par les produits Monsanto, et du coup quand tu essaies de planter une graine qui est autre qu'une graine Monsanto, ben, ça pousse pas en fait, et du coup le paysan il est dans la merde. Et pire encore, ses voisins, parce que ben, les parcelles de terrain sur lesquelles tu vas faire pousser des plantes, bah, elles sont pas, tu vois, il y a pas des délimitations souterraines en fait. Quand tu mets du désherbant ou quand tu mets des engrais, ils arrivent dans les sols et puis ils communiquent avec les voisins. Donc son voisin qui est en train de faire pousser son petit maïs bio ou son maïs normal, tu vois, avec des désherbants normaux, bah il se prend du désherbant Monsanto, et tout d'un coup il y a plus rien qui pousse, et lui il se retrouve aussi obligé d'acheter du Monsanto. Donc c'est une boîte qui a explosé grâce à ce petit mécanisme. Et à l'époque de la guerre du Vietnam, Monsanto fabriquait ce qu'on appelle de l'agent orange. L'agent orange, c'est le principe actif du napalm. Donc c'est un désherbant hyper puissant qui, si tu craques une allumette, en fait, ça part en flamme, en fait. Donc t'avais des avions qui passaient au-dessus des jungles, si tu veux, ou des villages qui étaient à moitié dans la jungle. Tu vois, le Vietnam, il y a beaucoup de végétation. Et ils balançaient tout cet agent orange. Ensuite, t'avais juste à balancer, en fait, une petite... c'était un mécanisme, tu vois, l'avion, il passe, il balance tout le désherbant, et à la fin, il met une petite étincelle et il y a tout qui s'enflamme. Vous avez ceux qui ont joué à Call of Duty Black Ops, vous connaissez les frappes de napalm. Donc en fait, tu fais absolument tout cramer. Donc les frappes de napalm, c'est soit tu fais brûler ton agent orange, soit tu laisses juste l'agent orange en fait. Et vu que c'est un désherbant hyper puissant, ben, très rapidement, toutes les feuilles des arbres, toute la végétation en fait meurt. Donc tu butes absolument tout. Et tu provoques en fait littéralement sur le long terme, les malformations physiques les plus violentes qu'on a pu constater depuis le début de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que toutes les populations qui vivent encore aujourd'hui dans ces zones où il y a eu des frappes de napalm, où les Américains ont balancé de l'agent orange, cultivent des sols qui sont contaminés par ce désherbant. Et c'est des... Allez voir sur Internet, tapez genre agent orange malformation, c'est les malformations les plus hardcore que vous allez voir de la Terre. Vous allez voir des gens avec des yeux qui sont genre dans leurs pieds, tu vois. Et le plus terrible dans tout ça, c'est que c'est des gens qui vont très bien dans leur tête. Donc ils se rendent compte qu'ils partent un peu en couille. Bref, tout ça pour dire, enfin, je m'étais un peu renseigné là-dessus parce que... Enfin, je m'étais même carrément renseigné là-dessus parce que c'était mon travail de bosser pour une association, une ONG, un organisme non gouvernemental qui s'appelait Green Cross. C'était la Croix Verte. Leur but, c'était de venir en aide aux populations qui grandissaient, qui vivaient dans ces milieux contaminés, et du coup de mettre en place tous des systèmes pour faire des opérations auprès de ces populations quand c'était possible, et ainsi de suite. Je ne sais plus exactement ce qu'ils faisaient, mais voilà, la Croix Verte, Green Cross. Donc, pendant qu'on balançait des frappes de napalm sur les Vietnamiens, il y a des gens aux États-Unis, ils étaient là, mais les gars, pourquoi on fait ça en fait, c'est débile. Et tout ce mouvement de contestation vis-à-vis de la guerre, c'est un mouvement qu'on appelle le mouvement de counter-culture. Donc c'est un mouvement de contre-culture. Donc c'est tous des mecs en fait qui se rassemblaient et puis qui venaient faire des manifestations, et vous les avez déjà vus, tu vois, qui étaient là et puis qui protestaient contre la guerre. Et dans ce mouvement, il y a deux drogues qui circulaient énormément. La première, c'est la weed. Ben, c'est pas très étonnant, tu vois, on est dans les années... on est dans les années quoi ? On est dans les années... Ouh, j'ai pas envie de dire de bêtises. Est-ce qu'on est dans les années 60, la guerre au Vietnam, ou je me trompe, je crois on est, ou dans les années 70 peut-être, je crois les années 70, bref, peut-être qu'on reviendra un peu là-dessus. On est dans les années où en gros ça fumait, ça bédavait bien. Et une autre drogue qui circulait beaucoup, c'est le LSD. Alors le LSD, pour ceux qui en auraient jamais entendu parler, c'est un liquide inodore, donc qui ne sent rien, incolore, transparent, qui a un potentiel en fait hallucinogène très puissant. Donc pendant un trip au LSD, en fait, tu vas avoir une modification de ta perception plus une modification de tes schémas de pensée. Tu vas commencer à réfléchir d'une manière différente. Et alors, pour la petite histoire, vous êtes peut-être, certains d'entre vous sont peut-être au courant. Je ne sais pas si vous entendez beaucoup les travaux, j'espère que non. C'est très intense, mon quartier. Le LSD, ça a été découvert par un chimiste suisse qui s'appelle Albert Hofmann, qui du coup a découvert ce truc un peu par hasard, et puis qui un jour a décidé d'en tester. Alors il y a deux versions, il y a la version en mode il en a pris sans faire exprès, et puis l'autre version c'est il l'a carrément testé, et moi à mon avis je me dis qu'il l'a carrément testé. Donc il a pris ce qu'il pensait être une dose minuscule de LSD, mais en réalité c'est une énorme dose, parce qu'en fait un trip de LSD c'est 100 microgrammes, donc c'est vraiment pas beaucoup. Pour te dire, du coup, un gramme de LSD c'est 10 000 doses. Donc le mec a pris vraiment, je sais pas comment il a pris, mais il a dû prendre pas, imagine rien qu'il ait pris 10 microgrammes, ce qui est rien du tout. Bah, en fait, il s'est pris 10 fois la dose normale. Donc en gros, le mec a pris une mini-dose et il est sorti de chez lui, tu vois. Et puis il a commencé à faire du vélo. Et pendant qu'il était à vélo, il a commencé à avoir un énorme trip au LSD. Et puis c'était au point où il n'a plus pu conduire son vélo. Donc il a dû le pousser le vélo jusqu'à la maison. Il a pris des notes et tout. Il a écrit le truc et s'est dit, mais mec, c'est incroyable ce truc en fait. Genre, qu'est-ce que c'est, tu vois ? Et du coup, il a écrit à toute la communauté scientifique du monde et il leur a dit, les gars, j'ai découvert un truc en fait. C'est, vous n'allez pas me croire en fait. C'est juste. C'est. Tester en fait, et si vous voulez, je vous en envoie gratuitement. Donc de là, il a proposé aux scientifiques du monde entier de leur envoyer des échantillons de LSD pour que les scientifiques puissent commencer un peu à s'intéresser au truc et à comprendre c'était quoi ce liquide et pourquoi est-ce qu'il faisait cet effet-là. Et donc dans cette idée-là, tu vois, étant donné que, alors j'en ai pas encore parlé, mais imagine, tu vois, rien que le liquide, le fait que 100 microgrammes ce soit une dose, 1 gramme, t'es 10 000 doses, 1 kilo... J'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que c'est... Du coup, 1 kilo, c'est... Je l'ai écrit, en fait. 1 kilo, je crois que c'est 10 millions de doses. Ouais, avec 1 kilo de LSD, t'as 10 millions de doses. Et avec ça, tu vois, le LSD, c'est pas une drogue que tu prends tous les soirs. Tu vois, c'est pas genre de la weed où tu peux fumer dans la journée. Un trip de LSD, c'est 8 heures et c'est intense. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, personne prend, se fait un trip de LSD tous les jours. C'est impossible. Genre, tu te fais un trip de LSD, t'as besoin de, genre, limite quelques mois pour, genre, comprendre ce qui t'est arrivé et te dire, OK, en fait, genre, c'est bon, j'ai le temps d'atterrir. Donc, avec 10 millions de doses, t'as de quoi fournir, en fait, à un pays pendant, allez, facile, 3-4 ans. Tu vois, un pays comme les US. Et c'est un kilo. Donc, de là, tu comprends bien que, genre, ça s'est très facilement répandu énormément parce qu'il suffisait d'un kilo pour alimenter, enfin, tu vois, genre, produire du LSD, tu le produis après, ben... T'en as à l'infini, donc c'est pas très cher. Et avec ça, en fait, les effets du LSD, comme je l'ai dit, une modification des perceptions, ben, ils collaient plutôt bien avec ce mouvement de contre-culture. J'ai de la peine un peu à prononcer ce mot en anglais. Counterculture. C'était bien, non ? Counterculture. Donc, je vais revenir un petit peu sur les effets du LSD, ou alors je sais pas si je vous en parle maintenant. J'ai noté aussi que... Ouais. J'ai noté, ouais, bref, en gros, je vais me contenter de vous dire pour l'instant que les changements dans le processus de pensée qui peuvent arriver pendant un trip au LSD sont des changements qui collaient bien avec cette idée que c'était pas bien d'aller brûler des Vietnamiens. J'ai aussi noté que, voilà, peut-être donner une petite précision, c'est vrai que j'ai dit que personne ne prenait du LSD tous les jours. Il y a une tendance qui s'est développée dans la Silicon Valley, dans le milieu de la tech de manière générale aux US, et en réalité qui s'étend à d'autres milieux, qui s'appelle le microdosing. En fait, c'est des gens qui vont prendre certaines drogues, comme le LSD, la psilocybine. La psilocybine, c'est le principe actif des champignons hallucinogènes, de la MDMA, ou bref, n'importe quel, ça se fait avec plein de drogues en réalité, mais en microdose. Tu prends un dixième d'une dose, ce qui fait que tu vas à peine ressentir les effets sont à peine perceptibles, et tu vas faire ça, pas tous les jours, parce qu'autrement t'as une accoutumance qui se développe, mais t'as différents tableaux en fait pour tester le microdosing. Donc tu peux prendre ton dixième de dose le lundi, mardi, mercredi tu prends rien, tu reprends ton dixième de dose le jeudi, et en fait tu bénéficies quelque part, d'après les gens qui supportent cette façon de consommer le LSD ou d'autres drogues, tu bénéficies des effets de ces drogues sans avoir genre le full trip qui est très puissant en fait, qui est très très fort. Alors pour vous donner mon avis personnel là-dessus, parce qu'il me semble que c'est quelque chose que j'ai déjà mentionné sur internet, j'ai jamais testé le LSD, c'est un truc que j'aimerais bien faire, mais les champignons hallucinogènes, c'est quelque chose que j'ai testé souvent. Et le microdosing de champignons hallucinogènes, c'est aussi quelque chose que j'ai testé. Donc j'ai testé de prendre un dixième de dose de champignons pendant une longue période. J'ai fait ça pendant 2 semaines en réalité. Et au bout de 2 semaines, en fait, j'étais pas convaincu en fait par les résultats de l'expérience, disons. Je me suis aussi dit en fait que c'était peut-être pas la bonne période pour le faire, parce que c'était la période pendant laquelle en fait j'étais en train de préparer mon TEDx. Et du coup là, vous comprendrez un petit peu mieux les questionnements que j'ai eu vis-à-vis de mon TEDx. Alors je vais pas m'étaler là-dessus parce que j'ai une vidéo complète dans laquelle je vais vous raconter en fait ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que je me suis misérablement planté pendant cette conférence. Pour vous la faire courte, moi j'avais un pitch qui était prêt, complètement prêt. Je l'avais pitché auprès des organisateurs, ils étaient chauds parce que le thème c'était l'identité à l'ère du digital. Donc j'allais parler de comment est-ce que ma personnalité sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram, Facebook ou alors même peut-être LinkedIn, allait avoir une influence sur la perception que les gens avaient de moi dans le monde physique. Donc je parlais de cette interaction, le fait que j'ai eu une grosse chaîne YouTube que je l'ai vue mourir, c'était la chaîne Mère Teresa PGM, donc que j'ai fermée, qui est morte, et du coup j'avais un moment où cette personnalité digitale, si tu veux, cette identité digitale, elle existait, ensuite elle est morte, et quels ont été les impacts de cette mort sur ma personnalité réel, tu vois, sur mon identité physique. Bref, j'avais un truc bien près là-dessus. Et en fait, j'ai commencé à faire ce microdosing en champignons. Et au bout de 2 semaines, je me suis dit en fait que... Je me suis dit que c'était pas si intéressant que ça, le microdosing. Et mon raisonnement, c'était un truc du style... je préférais avoir un full trip sous champignons, avoir tous les insights, c'est-à-dire genre toutes les différentes visions que... Bon, alors on va en parler un peu plus, hein, de ces différentes visions que tu peux avoir quand tu prends ce genre de drogue. Mais j'avais envie d'avoir toutes ces différentes visions. Ensuite, me laisser le temps d'atterrir, encaisser tout le truc et retourner en fait dans une perception normale. Parce que moi, j'ai eu, comme vous le savez, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne principale sur mon addiction à la weed. C'est une drogue que j'ai fumée tous les jours pendant facile 2-3 ans quand j'avais peut-être même 3-4 ans en réalité, jusqu'à mes 21 ans, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, j'en ai 28, donc ça fait un petit moment que j'ai réussi à faire sortir le truc de ma vie. J'ai rechuté à deux reprises pendant quelques mois et c'est à nouveau une des vidéos que j'ai prévu de vous faire sur la chaîne... Sur cette chaîne YouTube. Mais j'attends juste de terminer de gérer ce coaching avec les gens avant de pouvoir vous les sortir, mais c'est les prochains projets sur la chaîne YouTube principale. Bref, étant donné que moi j'ai eu ce problème avec la weed, de consommer le truc régulièrement et que j'aimais pas en fait l'idée d'être constamment en fait dans 24 heures, avoir genre, je sais pas, 8 heures ou 10 heures où j'étais avec une perception de la réalité et une autre quantité d'heures où j'étais avec une autre perception de la réalité et faire ça tous les jours parce que j'avais l'impression en fait que ça m'empêchait d'avoir une vision claire sur ce que j'avais envie de faire, parce que mon système de valeurs en fait c'est pas exactement le même quand je suis défoncé que quand je suis pas défoncé. Si tu veux, je réfléchis pas aux choses de la même manière. Quand je suis défoncé, je vais peut-être être motivé, je vais avoir plein d'idées, mais je vais y réfléchir, ces idées elles vont me venir de manière abstraite, si tu veux. Et du coup, j'ai un problème quand je fume avec l'application concrète. C'est-à-dire que je vais parler avec un pote, je vais dire « Ah putain, en fait, on a trouvé la solution pour faire une chaîne YouTube qui va exploser et qui va être trop stylée. » Et en fait, le lendemain, je me rends compte que si j'ai envie de faire ça, ça demande plein d'actions concrètes et ces actions concrètes, je ne suis pas prêt à les entreprendre. Donc en fait, partant de là, j'avais pas envie, je me suis dit « Peut-être c'est pas le meilleur bail, en tout cas pour toi, de faire du microdosing. » Donc j'ai fait full expérience, j'ai pris tous les champignons qui me restaient, bam, je me suis balancé ça, j'ai fait un trip du coup ici à Barcelone avec un pote, génial, incroyable. Et pendant cette période, ce qui s'est passé, c'est que moi j'étais en train du coup de préparer ce TEDx, et du coup, bah, je vous en dis pas plus parce que c'est le sujet de la vidéo, mais en fait j'ai tout effacé ce que j'avais écrit sur ma feuille parce que j'ai eu un gros moment d'introspection lors duquel j'ai souhaité comprendre qui est-ce que j'étais réellement. Parce que quand je disais pendant la première version de ma conférence mon identité physique, je parlais de l'identité digitale, celle sur Instagram, sur Facebook, ainsi de suite, et je disais mon identité physique, et en fait je partais du principe que c'était évident ce que c'était. Tu vois, je disais juste bah, mon identité physique, bah, c'est qui je suis dans le vrai monde, tu vois. Et ensuite, suite à ce trip-là, j'ai commencé à me demander en fait, mais qui est-ce que je suis? Et pas qui est-ce que je suis, genre je suis Elio, pas qui est-ce que je suis, genre je suis un mec qui fait des vidéos sur YouTube, un podcast ou qui fait du coaching, pas qui est-ce que je suis, genre je suis le fils de mes parents ou je suis suisse ou autre. Ça, c'est un peu des différentes facettes, des différentes casquettes que j'ai qui changent au cours de ma vie. Mais il y a un truc qui est constant au cours de tout le truc. Il y a une espèce d'esprit, une espèce d'âme qui ne change pas. C'est le même truc qui fait que par exemple, bah, tes parents, ils sont peut-être très différents entre le moment où ils t'ont élevé ou où t'es né et aujourd'hui, parce que. Mais au final, c'est toujours les mêmes personnes. Au final, tu. Vous voulez qu'on écoute ce chien? Parce que moi, il m'énerve.
Écoutez. Non, en fait,
je vais pas vous faire la blague, désolé. J'ai vraiment pas le time. Il est déjà 16h28 et j'ai le groupe dans 30 minutes. Du coup, il faudrait que j'avance un petit peu. Bref, tout ce que je voulais dire, c'est que j'ai cherché en fait à comprendre qui est-ce que j'étais réellement parce que j'ai eu une perception différente sur la vie et j'ai senti que je commençais à toucher un truc, si tu veux, et je sentais que j'arrivais à commencer à capter en fait un truc de très profond par rapport à nous, si tu veux. Et ça peut paraître très trippé, et genre les gens qui ont jamais eu d'expérience avec des psychédéliques, vous avez l'impression que bah, c'est juste du délire en fait, c'est juste une hallucination et c'est un truc qui est pas réel. Mais à partir du moment où t'as eu cette expérience, tu comprends que ne dire que ce truc là n'est pas réel, c'est le truc le plus absurde du monde, parce que tu prends ce truc. Si toi, je te donne maintenant des champignons, tu vas l'avoir cette perception. Tu vas voir les choses de cette manière. Et n'importe quelle personne qui prend des champignons va voir les choses de cette manière. Et c'est comme si, et vu que tu l'expérimentes, vu que tu le vis, la chose est réelle. En dehors de toute conscience, le monde n'existe pas. Je ne sais plus le nom du physicien exactement qui disait ça, mais c'est hyper intéressant. S'il n'y a pas de conscience pour expérimenter la réalité, est-ce que la réalité existe ? Du coup, ce physicien partait du principe que la conscience, c'est un élément constitutif de la réalité. Tu as besoin d'une conscience pour que le réel, pour que les choses existent. Et à partir du moment où tu as une conscience, il n'y a pas de conscience objective. La conscience, c'est toujours quelque chose de subjectif. Toi, t'es conscient, t'es en train de m'écouter parler, c'est subjectif, c'est comme ça que tu m'écoutes parler. Maintenant, si tu prends un truc et que tu m'écoutes parler, mais ta conscience, en fait, elle est différente. Est-ce qu'elle est réelle ou est-ce qu'elle... Alors ok, c'est une conscience qui découle d'une consommation d'une plante, mais est-ce que pour autant, est-ce que ça veut dire que c'est faux? Est-ce que ça veut dire que c'est pas réel? Bah... Là, la question, elle est, tu vois, elle commence à être un petit peu tendue. Alors évidemment, quand t'as des hallucinations visuelles, bah, tu touches le truc. Il y a une dissociation entre le monde physique et ce que tu vas voir. Et encore, ça, je suis pas complètement certain, parce que les plus grosses hallucinations que j'ai pu personnellement avoir sous champignon, c'était surtout des patterns visuels, mais je voyais pas apparaître des choses qui n'existaient pas. Je voyais pas genre un singe devant moi et puis tu fais comme ça et puis tu passes à travers le singe. C'est pas ça ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que j'ai vu des changements de couleur, si tu veux, des espèces d'énormes, c'est magnifique. Bref, je vais pas m'attarder là-dessus. Mais dans l'idée, ce que j'étais en train de dire, c'est que le microdosing, tout ça pour dire, putain, la digression, tout ça pour dire que le microdosing, c'est pas un truc qui m'a fait kiffer. Et un truc simplement où je me suis dit que c'était pas top pour moi. Bref, on a ce mouvement de counterculture, les gens fument de la weed, les gens prennent du LSD, et ces mêmes personnes, c'est un peu les hippies du coup, qui sortent dans la rue et qui disent « vas-y, on arrête de balancer des frappes de napalm au Vietnam ». Et à cette époque-là, t'as un professeur de psychologie qui est devenu hyper célèbre et qui est devenu une des icônes de ce mouvement, qui s'appelle Timothy Leary, qui est rendu célèbre en fait par un slogan. Ce slogan, c'était, je vais le relire, c'est turn on, tune in et drop out. Et ça veut dire vas-y, mets-toi en phase et décroche. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce professeur de psychologie, il enseignait la psychologie de la personnalité à Harvard, qui est le poste qui a par la suite été occupé par Jordan Peterson. Et d'ailleurs, il y a un épisode de Peterson sur un podcast où il disait justement que il remettait en question en fait ce slogan de Timothy Leary. Il disait, enfin, il parlait un peu du fait qu'ils occupaient le même poste, qu'ils avaient des collègues en commun. Peterson, il dit en fait, il est d'accord avec les deux premières parties du slogan. Donc, vas-y, mets-toi en phase. Donc, genre, étends ta conscience quelque part, mais le décroche. Genre, juste décide de juste te laisser aller. Là, le psychologue canadien, il disait, non, là, je suis pas d'accord avec ça. Ce serait plutôt un truc du style, vas-y, mets-toi en phase et grandis, responsabilise-toi. Et mec, j'ai trouvé ça tellement puissant quand il a dit ça. Genre, au moment où il dit ça dans le podcast, il dit turn on, ok. Tune in, definitely. Drop out, no. Genre, tu veux dire non. Et puis, genre, il explique que pour lui, la dernière étape, c'est de devenir une meilleure personne, c'est de grandir, de se responsabiliser et de devenir quelqu'un de bien. Bref, du coup, j'ai trouvé ça très, très stylé. Bref, Timothy Leary, c'était du coup ce mec, cette icône du mouvement de counterculture, un personnage ultra charismatique qui avait lui-même son père spirituel. Et son père spirituel, c'était Terence McKenna. Alors, Terence McKenna, c'est un ethnobotaniste, donc un mec qui étudie comment la relation qu'une certaine culture entretient avec des plantes va modifier cette culture. Et c'est le mec qui a écrit, du coup, le livre dont je parle pas, du coup, depuis 30 minutes. Ça fait combien de temps ? Ouais, depuis 30 minutes. Qui s'appelle Food of the Gods. Et du coup, je vais vous parler de trois aspects principaux de ce livre, comme je vous l'ai dit. Tout d'abord, comment les plantes transforment notre culture. Ensuite, vous parlez de l'hypothèse de McKenna. Et ensuite, vous parlez de l'ayahuasca avant de conclure. Donc, je me suis perdu dans mes notes.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Donc voilà, dans Food of the Gods, comme je vous disais en début de podcast, c'est une hypothèse qui est développée et selon cette hypothèse du coup, ce serait la consommation de plantes psychoactives et plus particulièrement de champignons contenant de la psilocybine qui aurait amené en fait des singes en fait à avoir le niveau de conscience dont on bénéficie aujourd'hui. Comme j'ai dit, on parle souvent de théorie de McKenna. Moi, pour moi, c'est plus une hypothèse parce que c'est au final, qu'est-ce qu'on en sait, tu vois? J'ai certains points sur lesquels je me dis, ok, enfin, voilà, c'est une hypothèse. D'après moi, c'est plutôt une hypothèse. Mais, comme je l'ai noté, j'ai trouvé la citation assez cool, Aristote, le fameux Aristote, disait que c'est la caractéristique d'un esprit évolué que d'étudier, de s'intéresser à une idée sans pour autant l'accepter. Et c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de s'intéresser à ce truc et de se dire « Ah putain, c'est vrai, c'est intéressant, ça pourrait être cool. » Donc on n'a pas d'a priori, tu vois, on n'est pas là « Ouais, on va absolument faire passer ce truc, tu vois. » Parce que vous avez vu, moi j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous expliquais que la weed, c'était un truc qui ne me correspondait pas, qui m'allait pas bien quand je le consommais tous les jours. Mais est-ce que c'est parce que j'allais pas bien que je me mettais à fumer de la weed tous les jours, ou est-ce que c'est parce que je commençais à fumer de la weed tous les jours au final que j'allais pas bien? Je suis pas certain de ma réponse, je vais pas vous la donner maintenant parce que ça sera encore ouvrir une nouvelle porte. Mais à nouveau, je vous dis ça alors que je pense pas que ce soit mal de fumer de la weed de temps en temps. Tu vois, je pense que de consommer de la weed de temps en temps, quand c'est de manière ponctuelle, c'est vraiment pas un problème, et je pense même que ça peut être bénéfique. Donc garder de la nuance à l'esprit. On n'est pas là en mode oui, la drogue c'est bien, non, la drogue c'est pas bien. Tu bois tous les jours du café, tu bois de l'alcool, c'est des drogues. Genre, je suis désolé, je suis pas désolé en fait. Genre, si t'as un QI qui est supérieur à 120, tu comprends qu'il n'y a aucune différence entre de l'alcool et de la coke. Genre, littéralement, aucune. C'est les deux des substances psychoactives qui vont avoir un effet sur ton système nerveux. Il y en a un, c'est un dépresseur, et un autre, c'est un stimulant. Donc, un qui va ralentir l'activité de ton système nerveux, l'autre qui va accélérer l'activité de ton système nerveux. Mais entre la coke et le café, t'as deux stimulants qui vont booster tes circuits dopaminergiques. Tu regardes les gens quand ils sont genre au Starbucks, à l'aéroport et tout, en train d'attendre que le Starbucks y ouvre pour pouvoir se prendre du café. Ils sont comme ça, tu vois. Genre, quand t'as pas ton café le matin, t'es comme ça. D'ailleurs, je vais faire une vidéo un peu sur mon arrêt du café, parce que c'est... En fait, le café, c'est la seule drogue sur laquelle j'exerce aucun contrôle. Tu sais, je me suis dit, c'est marrant. Je contrôle ma consommation de drogue à 100% sur tous les drogues, mais le café, en fait, c'est la seule drogue où je me dis rationnellement, en fait, que je devrais arrêter de la consommer, parce que avant de boire du café, ben, j'étais tout le temps de l'énergie le matin. Et maintenant, j'ai pas d'énergie le matin, mais il faut que je boive du café pour me retrouver au niveau d'énergie normal. Et donc, je me suis dit, mais c'est débile de prendre une drogue comme ça, parce qu'au bout d'un moment, je me retrouve au stade où j'ai développé de la tolérance au produit, et du coup, je suis obligé de le prendre juste pour être normal, alors que je pourrais ne pas en prendre, donc être normal tout le temps. Mais quand j'ai besoin d'un extra boost, parce que j'ai un projet important sur lequel je bosse, ben là, je prends du café, et du coup, ben, je bénéficie des effets positifs du café. Alors que maintenant, bah, je dois boire 2-3 tasses si je veux vraiment avoir l'extra boost. Parce que je me limite quand même à une tasse de café. Bref. Et pourtant, j'arrive pas. Pourtant, j'arrive pas à arrêter. Alors, j'arrive beaucoup mieux depuis que je m'en place à un tracker d'habitude. Et c'est un des plans qu'on est en train de voir ensemble avec tous les mecs que je suis en coaching. Mais voilà. Donc, on va commencer par parler de la relation que les plantes forment avec notre culture. Alors, une chose. Est-ce que je vais vraiment avoir le temps de parler de tout ça? Vous savez quoi? On va faire un truc, les gars. Ça va être très improfessionnel de ma part, mais je vais envoyer un message sur le groupe de tous ces gros beaux gosses avec qui on est en train de faire ces lives. Je vais leur demander si on peut commencer le live à 17h15 pour que j'ai un peu plus de temps pour vous parler avec vous. À 17h20, je vais leur envoyer ça maintenant. Yo les gars, petite question, je suis en train d'enregistrer un épisode de podcast, donc en fait ça veut dire que je suis là maintenant en direct avec les mecs de YouTube qui sont en train de nous écouter. Est-ce que vous seriez ok qu'on commence le live exceptionnellement à 17h20, histoire que je puisse approfondir un petit peu le sujet? Je leur ai parlé de vous, ils savent qui vous êtes et tout, donc dites-moi si c'est good pour vous, et puis voilà, c'est tout. Donc prévenez-moi si c'est bon. Merci beaucoup. Voilà, donc je vais enlever le mode lune pour être sûr d'avoir leur réponse. Et si y a un mec qui me dit qu'il peut pas à 17h20, c'est très improfessionnel ce que je viens de faire, mais c'est à la fois très professionnel par rapport à vous. Je sais pas, en fait, je suis tourmenté. Genre, je suis, comment on dit, je suis déchiré, mais c'est pas du tout le mot. Je suis tiraillé. La relation qu'on a avec les plantes forme notre culture. En réalité, on a réarrangé, donc c'est ce que l'auteur explique, il nous explique qu'on a réarrangé des empires complets pour pouvoir se procurer certaines plantes. Donc on pense aux routes du café, du cacao, à tout ce qu'on a fait pour... Enfin, tu vois, genre, tu prends des millions d'esclaves dans un continent et tu les envoies dans l'autre et le 90% du commerce international, il est basé autour, je sais pas, de la consommation de sucre, tu vois. En fait, on fait tout ça pour une plante, tu vois. Pareil avec le café, pareil avec le cacao, pareil avec des tas de plantes. Le coton aussi, c'était un énorme truc. Et avec ça, quand on y pense, il y a un livre très intéressant, je me souviens plus du nom de l'auteur, Steven Johnson, qui s'appelle « Where good ideas come from », donc d'où est-ce que viennent les bonnes idées. Et dans ce livre-là, Steven Johnson nous explique que la consommation de café serait à l'origine de cette période de développement, de florescence intellectuelle qu'on appelle le siècle des Lumières. C'est-à-dire que vous avez entendu parler du siècle des Lumières, alors sachez qu'avant le siècle des Lumières, en Europe, on consommait énormément d'alcool. Pourquoi ? Parce que dans l'eau, il y avait des bactéries. Donc boire de l'alcool, c'était la solution safe, en fait. Et ça posait pas de problème parce qu'on travaillait tous dans les champs. Tu vois, on était tous là, on avait des travaux manuels, on faisait des trucs un peu débiles comme ça. Donc, on buvait de l'alcool, on était bourrés, on avait les pauses bières et tout, on buvait nos bières. Et c'était OK, tu vois, on pouvait se permettre d'avoir ça. Mais quand le café a fait son apparition à travers les coffee houses, donc tout d'abord, ça a été en Angleterre que ces coffee houses se sont démocratisés, ensuite, c'est arrivé en France, eh ben, on a des gens qui, l'avantage du café, du coup, c'est que tu fais bouillir l'eau pour le café. Donc, il n'y a pas de bactéries non plus dans le café. C'est aussi safe de boire du café que de boire de l'alcool. En tout cas, plus safe que de boire de l'eau. Donc, tu as toute une population qui s'est mise, au lieu de consommer une boisson qui rend impulsif, qui diminue tes degrés d'anxiété et qui, du coup, te fait agir comme un con quelque part sur plein de points. Quand tu bois de l'alcool, tu ne deviens pas con. C'est juste que t'accordes moins d'importance aux conséquences de tes actes, mais tu sais toujours qu'ils existent, parce que tes niveaux d'anxiété, ils baissent, tu ressens moins d'émotions négatives. Mais du coup, quand t'as toute une population qui passe de consommer ça à une autre boisson qui, elle, stimule le système nerveux, permet de se concentrer, de penser avec plus de clarté, et juste, ben, quand tu bois du café, t'es genre, pff, t'es comme ça, tu vois, qu'est-ce qui se passe ? Ben, t'as genre, les gens, t'as pas le même niveau de discussion autour de la table, tu vois, genre tu prends des gens, tu leur donnes du café, tu les fais parler, ils risquent de te parler de trucs un peu plus intéressants, un peu plus intelligents, disons, un peu plus constructifs que si tu leur files de la bière, ok ? Donc, dans son livre « D'où viennent les bonnes idées ?», Stephen Johnson nous explique qu'en fait, l'Europe des Lumières, donc tous ces grands philosophes, toutes ces grandes nouvelles idées, cette explosion en fait en termes de différents concepts, est née parce que on a commencé à boire du café. Donc, de là, tu captes assez vite que toutes ces plantes psychoactives qu'on consomme, elles ont un impact énorme sur la façon dont notre société occidentale s'est développée. Et en réalité, c'est le cas avec toutes les sociétés de la planète. Genre, les plantes qui sont consommées, elles retournent de A à Z une société. Et en fait, on serait comme des poissons qui ne voient pas l'eau dans laquelle ils sont en train de baigner. En fait, cette relation qu'on a avec les plantes, elle est tellement forte qu'on ne s'en rend même plus compte, en fait. Imaginez un monde où il n'y a pas de café. Imaginez un monde où il n'y a pas d'alcool. Imaginez toutes les décisions, toutes les opérations, tout ce qui s'est passé dans le passé qui a eu lieu parce qu'il y avait du café ou parce qu'il y a eu de l'alcool. Ou parce qu'il y a eu du sucre, tu vois, genre McDonald's, Coca, tout ça, ça n'existe pas s'il n'y a pas de sucre. Bref, les plantes et nous, c'est une grande histoire d'amour. Et du coup, quand on se demande depuis quand existe cette relation, mais en réalité, depuis toujours. Enfin, depuis toujours, non, faux. En tout cas, depuis toujours, de quand on était Homo sapiens. Alors bon, les scientifiques, ils ont tendance à s'accorder pour dire qu'on est Homo sapiens depuis moins 300 000 ans, mais en réalité, vous savez que c'est pas le cas, parce que c'est pas il y a 300 000 ans que tout d'un coup on est devenu Homo sapiens. Une nouvelle espèce, on considère que deux animaux sont d'une espèce différente quand ils ne peuvent pas se reproduire et donner naissance eux-mêmes à une progéniture viable. C'est-à-dire qu'un cheval et un âne, ils peuvent se reproduire, mais ils vont donner naissance à une mule. Une mule, c'est pas, ça peut pas elle-même, pas, j'ai pas dit viable, j'ai dit une progéniture qui peut elle-même donner naissance à genre des nouveaux bébés. Donc une mule, c'est viable, donc ça peut vivre, mais c'est stérile. Donc c'est pour ça qu'on dit que l'âne et le cheval ne sont pas deux espèces différentes. Et pour que l'âne et le cheval deviennent des espèces différentes, bah à la base, ils avaient un ancêtre commun, l'âne et le cheval. Mais comment ça s'est passé ? Comment est-ce qu'à un moment donné, tu te retrouves avec des ânes et des chevaux ? Bah simplement, tu prends une population d'ânes, je vais venir peut-être avec les humains, c'est peut-être... Non, avec les ânes, ça marche aussi. Tu prends une population, tu prends l'ancêtre commun qu'ils avaient, et bien à un moment donné, ces espèces de... Je sais pas ce que c'est l'ancêtre commun des ânes et des chevaux, on va appeler ça les chânes. Donc il y avait des chânes qui ont commencé à aller vivre sur une île, tu vois ? Et d'autres chânes qui ont commencé à vivre... dans la campagne. Eh ben, les chânes qui sont partis vivre sur l'île, peut-être que tu vois, ils sont juste allés sur un endroit et puis ils ont kiffé, et après le niveau de l'eau a monté, donc ils se sont retrouvés bloqués sur l'île. Eh ben, les chânes qui étaient là-dessus, ben, ils sont tous les plus grands chânes, ben, ils sont morts plus vite parce que, ben, en fait, ils avaient besoin de manger plus et les ressources étaient limitées sur l'île. Donc en gros, les chânes qui ont survécu, c'était des chânes qui étaient un peu plus petits et qui étaient peut-être plus lents, tu vois, et qui conservaient un peu mieux leur énergie. Alors que les chânes qui ont été vivre dans les plaines, c'était l'inverse. Vu que les plaines, c'était grand, bah, les chânes qui étaient plus grands, plus rapides, bah, ils pouvaient plus facilement s'échapper des prédateurs. Et du coup, tu les sépares, ces deux populations, et tu reviens 50 ans plus tard. Tu prends un Shan qui a vécu sur l'île, un Shan qui a vécu en plaine, et tu essaies de les faire se reproduire. Bah, dans 99,9% des cas, bah, ils vont réussir à donner naissance à un Shan, du coup une progéniture, qui elle-même pourra donner naissance à d'autres progénitures. Maintenant, si tu les laisses évoluer pendant 5000 ans, bah, peut-être que la probabilité elle est passée de 99,9 à 98%. Et peut-être dans 2% des cas, le Shan 5000 ans après de l'île et le Shan de 5000 ans après de la campagne, tu les fais se reproduire, ben, ils ne donnent pas naissance à une progéniture viable. Et du coup, le process d'évolution, le process au cours duquel les deux espèces vont être complètement différentes, c'est un process qui est très très lent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, on a des gens, et t'en fais probablement partie, qui ont en eux-mêmes de l'ADN de Néandertal. On fait tous partie du genre humain, donc le genre homo, mais l'espèce, notre espèce, c'est Homo sapiens, mais personne n'est 100% Homo sapiens. On a peut-être 99% sapiens, mais 1% Néandertal. Et dans certaines régions du monde, t'as des gens qui ont plus d'ADN de Néandertal, et on a également de l'ADN de d'autres espèces humaines, en fait. Et ça, c'est un truc de ouf. Donc voilà, tout ça pour dire que de dire qu'on a consommé des plantes psychoactives depuis toujours qu'on est humain, qu'on est des homo sapiens, pardon, depuis le début de l'existence de notre espèce, ça n'a pas vraiment de sens, parce que notre espèce, on dit il y a 300 000 ans l'homo sapiens, mais en réalité, même aujourd'hui, on n'est pas encore que homo sapiens, en fait. C'est possible que... C'est un autre sujet, je ne vais vraiment pas me développer là-dessus, parce que c'est vraiment pas... Je me rends compte, il faut vraiment que je me contienne, surtout que dans 20 minutes, dans 30 minutes, on part sur les coachs. Tout ça pour dire que nous, on aurait divergé des chimpanzés il y a 5 millions d'années. Et dans le parc national, comment il s'appelle, du torrent de Gombe en Tanzanie, il y a des chercheurs qui ont remarqué, qui ont trouvé des feuilles non digérées dans les crottes des chimpanzés. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, mais pourquoi est-ce que ces chimpanzés mangent ces feuilles alors qu'ils ne les digèrent pas ? Donc ils se sont dit, ok, mais c'est certainement qu'en en fait, ils mangent plein de trucs et puis il y a en fait des feuilles qu'ils ne digèrent pas. Et ensuite, ils ont commencé à observer ces populations de singes et ils ont remarqué qu'une fois tous les deux semaines, les chimpanzés, ils s'éloignaient de la route qu'ils prenaient naturellement pour aller se poser et faire un peu, tu sais, leur dimanche pique-nique. Et ils allaient genre dans un autre endroit où il y avait précisément ces arbres-là et ils allaient bouffer les feuilles de ces arbres alors que c'était des feuilles qu'ils ne digéraient pas. Et ils ont commencé à se demander, mais qu'est-ce que c'est ces feuilles, tu vois. Donc ils ont regardé et ils ont remarqué que c'était des feuilles d'aspilia. Et l'aspilia contient une molécule qui s'appelle j'ai dû le noter parce que c'est horrible comme nom, la thiarubrine A. Et en fait, c'est une molécule qui provoque l'arrêt des saignements et qui détruit les bactéries et les vers intestinaux. Et cette molécule, on peut la retrouver dans différentes espèces de plantes, dont du coup la plante qu'on appelle aspilia. Et du coup, les scientifiques, ils se sont dit, mais en fait, c'est dingue. Ces singes, ils sont en train de consommer des plantes pour, en fait, se soigner pour autre chose que pour se nourrir. Ce qui veut dire que nous, évidemment, on a consommé des plantes pour autre chose que pour se nourrir depuis qu'on est Homo sapiens, même si, comme on l'a vu, ça veut peut-être rien dire. Mais en réalité, depuis même avant, vu que même les chimpanzés, ils le font. Et le petit truc marrant, c'est que dans cette même région, donc dans ce même parc national, ils ont été voir les tribus natives du parc, donc les humains qui habitent un peu éloignés de la civilisation. Et ils ont remarqué que les tribus natives, ils mangeaient exactement la même espèce d'aspilia que les chimpanzés. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs espèces d'aspilia qui contiennent toute cette molécule qui s'appelle la thiarburine. Putain, horrible. La thiarubrine A. Mais les humains, mais de ces trois espèces qui poussaient dans la région, les humains n'en consommaient qu'une. Et c'était la même que celle que les chimpanzés utilisaient. Bref, tout ça pour dire qu'en termes de relation qu'on consomme avec des plantes, ça fait très, 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 très longtemps qu'on le fait. Donc on le fait avant d'être humain, qu'on était encore des singes. Et probablement qu'on le faisait même avant, qu'on ressemblait peut-être à des espèces de petits capybaras ou des petits mammifères qui avançaient à quatre pattes, tu vois, avant qu'on soit singe. Et peut-être, alors si ça se trouve, on le faisait même quand on était des poissons, tu vois, peut-être qu'on mangeait des algues ou j'en sais rien. Bref, après, genre, c'est très de l'hypothèse, tu vois, mais en tout cas, pour les chimpanzés, on le sait. Donc il y a en tout cas plus de 5 millions d'années. Bref, on va parler de l'hypothèse de McKenna, parce que c'est un peu pour ça que vous êtes là, et je pense que c'est le point le plus intéressant de cette vidéo. Les cerveaux de nos cousins les plus proches, qui sont les gorilles, les chimpanzés et les bonobos, au cours des dernières 10 millions d'années, ils n'ont pas beaucoup évolué. Leur taille, elle n'a pas grandi. Mais les cerveaux des Homo sapiens ont grandi pendant une période, alors on n'était pas encore Homo sapiens comme on l'a vu, mais nos cerveaux à nous, donc pendant le process de transformation, ont triplé, plus que triplé de volume pendant une période de 3 millions d'années. C'est une expansion juste absolument énorme et les scientifiques ne comprennent pas comment est-ce que c'est possible que nos cerveaux ont grandi autant. Donc de là, il y a plusieurs théories, plusieurs hypothèses. Il y a une première hypothèse, c'est l'hypothèse qu'on a pu retrouver dans le livre Sapiens de Yuval Noah Harari. qui veut que, en ayant commencé à cuire nos aliments, on ait pu rendre le processus, pardon, on ait pu rendre le processus de digestion. C'est marrant que ça arrive maintenant. On ait pu rendre le processus de digestion plus court, donc on le raccourcit, ce qui fait que on n'a plus besoin d'avoir des intestins aussi longs, parce que plus les intestins sont longs, plus ça permet de digérer. C'est pour ça que des herbivores comme des vaches, ils ont des intestins hyper longs, parce qu'il faut digérer le truc et ça prend du temps. Donc nous, le processus de digestion, il est devenu plus court. Et à partir de là, nos intestins, ils sont devenus plus courts, ils ont demandé moins d'énergie, et donc il y a plus d'énergie qui a pu être allouée au cerveau, et c'est ce qui fait que ben, nos cerveaux ont pu grandir. Hypothèse numéro 1, intéressante. De là, il y a des scientifiques qui ont dit « Non, mais attendez, ça colle pas. » Parce que la période pendant laquelle nos cerveaux ont grandi a eu lieu avant la découverte du feu. C'est-à-dire que nos cerveaux ont commencé à grandir avant qu'on ait commencé à utiliser le feu pour des tâches un peu complexes comme la cuisson. Alors, quand est-ce qu'on a commencé exactement à utiliser des tâches complexes comme la cuisson ? C'est pour ça qu'on est toujours en train de parler d'hypothèses. Mais ils ont dit c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ils disent, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que nous, on utilisait du feu, ok, depuis longtemps, mais pour des trucs débiles, du style pour la chasse. C'est-à-dire que on avait un troupeau de bisons, et puis on foutait le feu à la plaine, si tu veux, comme ça, ça brûlait, les bisons, ils avaient peur, ils couraient tous contre la falaise, et après, on leur jetait des cailloux dessus, et puis on les tuait. Donc on utilisait le feu pour de manière un peu primitive, mais le feu pour un truc un peu complexe, comme cuire les aliments, ça, on ne l'a fait qu'après que nos cerveaux aient grandi. Donc ces scientifiques, ils ont commencé à dire, ils ont dit « Non les gars, c'est pas évident que ce soit dans votre sens que ça se soit passé. Si ça se trouve, c'est parce que nos cerveaux ont grandi, parce qu'on est devenu plus intelligent, qu'on a pu utiliser le feu d'une manière plus créative et donc commencer à cuire nos aliments avec. » De là, t'as un troisième groupe de scientifiques qui viennent et qui disent « Non, regardez, il y a un truc intéressant qui s'est passé. C'est que nos cerveaux ont commencé à grandir pendant une période d'intense bouleversement climatique. » C'est-à-dire qu'il y a eu des gros changements pendant lesquels des populations de singes ont dû quitter la forêt pour aller vivre dans les plaines. Et donc, quand tu as un énorme changement d'environnement comme ça, quand tu as une population qui doit vivre d'un environnement à un autre, qui sont les individus qui survivent le mieux ? Bah, c'est les individus qui sont intelligents. Parce que quand tu es intelligent, tu trouves plus facilement des solutions à différents problèmes. Tu vois le nouvel environnement et plus rapidement, tu es capable de dire « Ah ok, je suis dans la plaine, donc vas-y, je peux essayer de dormir sur ce genre d'arbre et tout, je peux essayer de construire un truc avec ça. » Et du coup, c'est parce qu'il y a eu un déplacement de ces populations d'un environnement à un autre qu'il y a eu une sélection naturelle qui s'est faite des individus les plus intelligents, ce qui a fait que le cerveau a grandi. Et c'est dans le cadre de ces deux dernières hypothèses que rentre l'hypothèse de McKenna, donc la quatrième hypothèse, notre auteur. Terence McKenna, auteur du livre Food of the Gods, que je vous recommande pas parce qu'il est compliqué à lire. Bref, McKenna, ce qu'il dit, c'est que quand on s'est mis à vivre dans des plaines, on s'est mis à cohabiter avec des herbivores, plus particulièrement des bisons. C'est pour ça qu'il y a plein de peintures de bisons sur différentes cavernes, parce que voilà, on vivait avec les bisons, on cohabitait avec eux. Et par extension, on s'est mis à cohabiter avec une autre espèce. Et cette espèce, c'est le psilocybe cubensis. Alors le psilocybe cubensis, c'est un petit champignon comestible qui a goût de champignon, qui contient de la psilocybine et de la psilocybe, mais particulièrement de la psilocybine. En fait, c'est deux molécules qui ont le même effet, mais on parle régulièrement plus de psilocybine que de psilocybe. Ce psilocybe cubensis, il contient de la psilocybine. Et pourquoi, en fait, par extension, on a commencé à vivre avec ce psilocybe cubensis ? Parce qu'en fait, c'est un champignon qui est coprophage. C'est un champignon qui mange du caca. Donc, il pousse dans les bouses de bison. Est-ce que nos ancêtres ont mangé ces champignons ? Alors ça, c'est un fait. Hein. On a vécu, on a cohabité avec cette espèce de champignon. Est-ce que nos ancêtres ont mangé ces champignons ? Bah oui. On est omnivores, les champignons sont comestibles. On est curieux, on a vu, tu vois, genre c'est pas en mode t'as le choix entre manger des champignons qui poussent sur le caca ou aller te choper un grec ou une pizza ou aller dans un resto ou aller au supermarché. On avait la dalle, frère. Tu marches, t'essaies d'attraper un troupeau de bisons, les bisons ils s'échappent ou alors juste tu vois juste des crottes de bisons par terre, il y a des champignons, t'essaies de les bouffer en fait. Donc je sais pas si ils sont en train de m'entendre parler tout seul, je crois. Je prends trop les choses personnellement, mec, c'est un truc de ouf. Ça se trouve, ils sont juste en train de rigoler. Ouh là là, tu devrais te mettre à appliquer tes petits principes de développement personnel à toi-même, Elio. On aurait du coup, voilà, très certainement, commencé à consommer ces champignons. Qu'est-ce qui se passe quand un hominidé, donc un de nos ancêtres, il mange ces champignons ? Alors, à petite dose, il va avoir une augmentation de son acuité visuelle. C'est-à-dire qu'on a des études d'un mec qui s'appelle Roland Fischer qui montre que sous psilocybine, les sujets remarquent plus rapidement les changements qui arrivent au niveau d'une image. C'est-à-dire que tu as une image qui très lentement se transforme. Sous psilocybine, tu vas plus rapidement détecter le changement. Pour ceux qui n'ont jamais pris de champignons, dites-vous que la vision que tu as sous psilocybine, c'est comme si tu prenais une photo, t'augmentais la netteté, t'augmentais le contraste, t'augmentais la saturation et t'augmentais le sharp. Je sais pas comment on dit ça, je sais pas comment on appelle ça en français. C'est peut-être la netteté en réalité. Mais t'as une image qui est plus nette, si tu veux. Et t'as aussi l'impression d'avoir un champ visuel qui est un peu plus grand. Et du coup, les populations de singes qui ont mangé ces champignons et qui continuent à les manger, ont bénéficié d'un avantage évolutif sur les autres populations ou sur les autres espèces parce que elles pouvaient détecter plus facilement les prédateurs et détecter plus facilement les proies ou les fruits ou ce genre de trucs. À moyenne dose, la psilocybine augmente l'énergie et l'envie de ken. Donc, pour l'énergie, je pourrais te dire ok, quoique même si... moi j'ai plutôt mangé des truffes plutôt que des champignons, c'est le même principe actif dedans, peut-être que les champignons se digèrent mieux que les truffes, mais quand je mange les truffes, c'est pas rare que j'ai un léger, pendant la première demi-heure, un petit léger mal de ventre, si tu veux. Mais au final, c'est vrai que tu te sens vivant, si tu veux. Et pour ce qui est de l'envie de ken, j'ai jamais fait l'amour sous champignons. Pourtant, la plupart des drogues que je prends, je trouve l'état cool, tu vois. C'est des trucs chimiques qui t'arrivent dans la tête. Genre, quand t'es bourré, t'es dans un état différent. Et du coup, je me dis, en fait, ça peut être marrant d'essayer de coucher avec une meuf quand je suis dans cet état-là. Donc, la plupart des drogues me donnent envie de faire du sexe, mais les champignons, pas du tout. Et c'est aussi le cas d'autres personnes que je connais. Par contre, il y a d'autres personnes que je connais qui disent que non, eux, ça leur donne envie de faire l'amour. Et t'as un mec, par exemple, qui m'a dit que lui, quand il couchait sous champignon, il avait l'impression de faire l'amour avec l'univers. Et t'as une pote à moi qui m'a dit qu'elle n'avait pas envie de faire l'amour sous champignon. Par contre, quand elle commençait à faire l'amour, c'était juste une expérience, genre juste complètement dingue. Donc, de là, toujours d'après l'hypothèse de McKenna, c'est un point où moi, je ne suis pas forcément d'accord, mais après, voilà, ça dépend des gens. Parce que je me dis, un singe, tu vois, il va pas tester de faire l'amour pour voir comment ça fait alors qu'il en a pas envie, tu vois. Enfin bref, ou alors peut-être il baisait juste parce que c'est des singes, tu vois, et puis ils peuvent juste, tu vois, ils sont un peu à poil et c'est facile de baiser quand t'es un singe, j'en sais rien. Bref, ça c'est un point sur lequel j'étais un peu moins en accord avec l'auteur. Mais du coup, les champignons à moyenne dose confèrent un avantage évolutif aux espèces qui le consomment parce qu'elles leur permettent de plus se reproduire. Et à haute dose, la psilocybine va... en fait, ça c'est très difficile à expliquer. À haute dose, la psilocybine, elle induit une intense sensation d'unité. Tu te sens connecté avec tout. Donc avec tout le monde et avec tout ce qui t'entoure, en fait. T'as l'impression d'être connecté au monde. Tu comprends. Tu te vois comme faisant partie d'un tout. Et à partir de là, les populations qui auraient consommé ces champignons, du coup, à haute dose, alors c'est pas, il y a des populations à haute dose, des populations à moyenne dose, des populations à petite dose, c'est juste, le singe, il ramasse ses champignons, s'il prend une petite dose, il a plus d'acuité visuelle, s'il prend, évidemment, c'est pas petite dose, ça, c'est un peu un mélange des trois trucs, tu vois, mais c'est comme ça, généralement, que se vit le trip. Mais le singe ou les singes, le petit groupe de singes, tu vois, ils sont quatre, ils sont là, c'est des potes, et puis ils mangent des champignons parce qu'ils ont la dalle, tu vois, et puis ces champignons sont comestibles, ils sont bons, donc ils bouffent ces trucs, et ils se tapent une haute dose, un trip à haute dose de psilocybine. Mais en fait, ils vont juste avoir le sentiment de faire un gros sentiment d'unité. Et ce sentiment d'unité, il pousse à une meilleure collaboration entre les individus. Parce qu'il, même post-trip, c'est pas juste pendant le trip que t'as un sentiment d'unité. C'est en réalité, même après coup, tu te dis en fait, waouh! En fait, j'ai vu le monde de cette manière-là et c'était réel. C'est ce que je disais juste avant. Tu vois ce truc et tu sens qu'il y avait quelque chose de juste, c'était quelque chose de vrai. C'est une perception différente de la réalité, mais elle n'est pas moins réelle pour autant. Donc tu te dis, en fait, les gens autour de moi, c'est mes frères. Et du coup, c'est un avantage parce qu'une population plus unie qui se voit comme faisant partie d'un tout, mais ils collaborent mieux, ils se font confiance, et s'ils se font confiance, ils peuvent plus facilement faire du business avec. Si je te fais pas confiance, je vais pas accepter de te payer, de te filer genre tes lunettes de soleil avant que tu me fasses le paiement. Et du coup, peut-être t'as pas l'argent pour me payer là maintenant tout de suite, et tu vis un peu loin dans le village et tout, et du coup, on va jamais faire l'échange, ça va pas se faire. Alors que si je te fais confiance, je te dis, ok, vas-y, je te file les lunettes de soleil, et toi, vu que tu sens que tu fais partie de ma team, tu vois, parce qu'on a ce sentiment d'unité, le lendemain, tu vas venir et tu vas me filer des trucs. Donc tout le commerce, toute la société performe beaucoup plus quand les gens sont capables de faire confiance. C'est un truc que j'avais remarqué au Mexique, le pays ne fonctionne pas parce que tout le monde se méfie de tout le monde. C'est juste l'enfer, c'est juste un putain d'enfer. C'est juste, pour les gens qui sont là-bas, c'est Et c'est vrai que tu te dis, ça n'a rien à voir en fait le niveau de ressources naturelles. Tu regardes les pays d'Amérique du Sud, un pays comme la Colombie, comme le Venezuela, c'est des pays qui sont riches, ils sont richissimes. Ils ont des ressources naturelles en termes de pétrole qui sont mais juste, c'est les plus grosses, je crois, le Venezuela c'est une des plus grosses réserves de pétrole du monde, mais pourtant c'est les pays les plus, un des pays les plus pauvres du monde. Pourquoi ? Parce qu'il y a la corruption, parce que les gens se trahissent les uns les autres. Du coup, voilà, c'est un petit élément à méditer. Il est 59, je vais essayer d'avancer un petit peu plus vite. Comme je disais, alors j'ai parlé un peu des peintures murales qui représentaient des bisons, mais pour soutenir cette hypothèse, il y a beaucoup, vous pouvez aller chercher sur internet, alors c'est des peintures qui sont, c'est des illustrations qu'on peut retrouver dans le livre, il y a beaucoup de peintures où, bah là par exemple, vous en avez une, il y a beaucoup de peintures dans des grottes ou à différents endroits où on voit où on dessine des champignons, où on voit des gens. Alors ouais, alors sur cette peinture, du coup, ce qu'on voit, du coup, je vais la décrire peut-être pour les gens qui écoutent la version audio. Sur cette peinture, ce qu'on voit, c'est un homme champignon en fait. C'est un mec qui a plein de petits champignons qui lui poussent partout autour. Juste là, sur la deuxième peinture. Alors, va falloir peut-être mettre sur pause et essayer de voir parce que c'est vrai que c'est en petit. Mais vous pouvez retrouver ces images sur internet. On voit en réalité des gens qui sont en train de courir en tenant des champignons et avec des champignons qui volent un peu autour d'eux, et ces gens ils sont contents, ils ont des sourires sur leur tête. Et en réalité on a plein d'exemples de dessins, de peintures rupestres où on a des champignons sur ces trucs. Bref, c'est un petit truc qui soutient l'hypothèse. Et de manière plus récente, parce que c'est des peintures qui datent d'extrêmement longtemps, on a le mythe d'Adam et Ève qui est intéressant à ce niveau-là. Alors, ça c'est un point que j'ai trouvé très intéressant dans le livre. Vous savez que la Bible, c'est le livre le plus lu de l'histoire de l'humanité. C'est le livre qui est chaque année le plus vendu et c'est le livre le plus, voilà, c'est le plus gros livre. Et le tout au début de la livre, tout est début de la livre, du livre. Du coup, j'ai pensé à la livre sterling et quand j'ai dit du livre, j'ai vraiment eu l'impression que c'était très faux parce que j'ai dit livre, mais j'ai pensé à la livre sterling et j'ai dit mais c'est la livre. Et tout au début du livre, c'est l'histoire d'Adam et Ève. Et l'histoire d'Adam et Ève, qu'est-ce qu'elle dit ? Bah en fait... Alors, peut-être que je vais suivre un petit peu mes notes histoire de pas trop me disperser. Ce mythe d'Adam et Ève, selon Carl Jung, c'est un mythe. Alors, Carl Jung, c'est un psychanalyste suisse qui a développé l'idée de l'inconscient collectif, qui est une idée mais brillantissime, l'inconscient collectif. Si vous voulez apprendre des trucs dessus, je vais même faire une vidéo sur l'inconscient collectif. Épisode de podcast sur l'inconscient collectif, ça va venir. C'est le truc le plus exploseur de cerveau du monde. C'est trop stylé. C'est vraiment trop stylé. Et c'est juste logique. C'est juste du A plus B. C'est un développement de la théorie du subconscient de Freud et qui... De Freud ou de Nietzsche ? Oh. C'est Freud, le subconscient. Bref, développement de l'idée du subconscient. C'est Freud, il me semble. Mec, je vais te chercher. J'ai pas envie de dire subconscient Freud. Freud, et si je mets N, ouais, c'est Freud. C'est Freud. J'ai mis F, ça m'a mis Freud. Si j'ai mis N, ça m'a pas mis Nietzsche. Ça m'a mis rien du tout. Bref, l'inconscient collectif, c'est le subconscient encore plus stylé, mec. C'est vraiment trop stylé. Bref, selon Carl Jung, cette histoire d'Adam et Ève, elle a traversé les âges parce qu'elle parle à une partie très 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 profonde de nous qui ressent qu'il y a quelque chose de juste. Et c'est pour ça que les gens continuent à se répéter l'histoire. C'est parce que quelque part, elle a quelque chose de juste. On peut en revenir à la notion d'archétype, on peut en revenir à cette espèce de schéma qu'on retrouve dans toutes les histoires au final, dans Le Roi Lion, dans Aladdin, dans Harry Potter, dans tous ces trucs. C'est un truc que vous allez comprendre un jour si vous décidez de suivre le cours Maps of Meaning de Jordan Peterson, où vous comprenez pourquoi est-ce que certains mythes et certaines histoires traversent les âges et pourquoi est-ce qu'un film fonctionne et un film ne fonctionne pas. C'est en fait la notion d'archétype qui est intéressante là-dedans. Pourquoi est-ce que quand j'ai fait ma vidéo sur la weed, il y a plein de gens qui ont eu l'impression de se reconnaître dans le truc ? Parce que l'histoire, je l'ai racontée d'une manière archétypale. C'est exactement ça. Bref, dans le mythe d'Adam et Ève, l'homme, du coup, originel et la femme originelle, ils vont manger le fruit d'un arbre et le fruit de cet arbre va leur accorder la conscience. En fait, c'est le serpent qui essaie de convaincre la femme de goûter au fruit. Alors du coup là je vais vous citer mot pour mot le passage qui est écrit dans la Bible. Donc le serpent lui dit vas-y mange ce fruit et tout, c'est trop stylé. Et puis Ève elle dit, donc elle lui répond, je cite, Dieu sait que le jour où... Non, c'est le serpent. Ève elle dit non, Dieu il nous a interdit de manger le fruit. Et du coup le serpent il leur dit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Donc mot pour mot, c'est ça. Bref, tout ça pour dire que la première histoire du livre le plus lu de toute l'histoire de l'humanité, c'est, et des premiers donc humains qui sont sur Terre, Elle raconte en fait que les premiers humains qui sont sur Terre sont devenus conscients en mangeant une plante psychoactive. D'après l'auteur, si aujourd'hui la tradition psychédélique s'est perdue, c'est parce que les sociétés, c'est parce que la violence c'est une très bonne solution sur le court terme. Et quand t'as des sociétés qui sont très unies parce que elles font tous ces rites religieux et tout, qui sont connectées aux arbres et puis qui, tu sais, les mecs dans l'Amazonie ou autres qui font l'ayahuasca, donc je vais vous parler de l'ayahuasca juste après. Quand tu rencontres des Espagnols en fait qui viennent avec leurs flingues, les Espagnols avec leurs flingues, ça marche très bien sur le court terme parce qu'une fois que je t'ai tué, je t'ai tué, c'est fini. Donc la violence sur le court terme, si tu veux dominer et continuer à comment dire, si tu veux te reproduire, si tu veux, et transmettre tes gènes, la violence, il se trouve que ça peut être bien. Moi, je peux t'arnaquer sur le court terme, ça fonctionne très bien. C'est juste que sur le long terme, ça va moins fonctionner. Et lui, il explique que l'égoïste, ça c'est un truc que moi j'ai noté en réalité, l'égoïste va probablement mettre à l'amende celui dont l'ego est dissous sur le plan matériel en tout cas, c'est-à-dire que à travers ces champignons, t'expérimentes une dissolution de l'ego, ce qui veut dire que tu ne te vois plus toi comme juste individu, tu te vois comme faisant partie d'un tout. Donc, quand t'as ton ego qui est dissous, c'est pas très très pratique, disons, pour payer des factures, monter un business ou négocier dans des affaires, tu vois. Parce que si tu vois que t'as l'impression de faire partie de l'univers, tu vois le mec et tu dis, vas-y, on fait 50-50, alors qu'en réalité, tu te fais exploser au niveau du deal, tu vois. Donc, l'égoïste, sur le plan matériel, l'égoïste, il bat celui qui a un ego dissous. Mais, et j'aurais bien voulu revenir sur tout ça à la fin du podcast, et je vais pas avoir le temps de le faire parce que là je vais devoir y aller, mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et je vais faire des vidéos sur ma chaîne YouTube principale pour développer un petit peu plus sur le sujet. Je m'arrête juste là, je vous parle de l'ayahuasca et de la conclusion. Donc c'est une partie du livre que j'ai trouvé intéressante qui parlait du coup des breuvages ancestraux, notamment du coup de l'ayahuasca. L'ayahuasca, c'est une boisson psychédélique très puissante, avec une très grande tradition chamanique en Amérique latine. Donc pour préparer l'ayahuasca, concrètement, il faut deux plantes différentes. C'est deux plantes qui ne poussent même pas dans la même région. Si tu consommes ces plantes séparément, ça ne te fait rien. Quand tu mélanges ces plantes, t'en fais un breuvage, tu prends ce truc, tu es propulsé dans un trip très très violent de 5-10 heures. Et en fait, tu vis juste une expérience spirituelle hyper intense. Donc les indigènes qui vivaient en Amérique du Sud, donc principalement au Pérou, en Équateur, dans cette région, donc la côte ouest d'Amérique latine, ils utilisaient du coup cette boisson, et ils utilisent encore aujourd'hui cette boisson, comme un élixir, comme une espèce d'élixir pour débloquer des schémas de pensée limitantes, des traumatismes et relâcher les énergies négatives. Cette espèce de renouvellement, il est mental, mais il est aussi physique. D'ailleurs, dans certaines régions, on appelle cette boisson la purga, qui signifie la purge, parce qu'en fait, physiquement, tu vas également vomir, tu vas également déféquer, tu vas lâcher des selles. En fait, tu as réellement une purge mentale et une purge psychologique. Donc le trip n'est pas nécessairement quelque chose d'agréable. Par contre, après coup, tu expérimentes le truc comme juste une espèce de renaissance complète. Et c'est une tradition qui date depuis mais hyper longtemps. L'auteur pas mal de l'ayahuasca dans ce livre-là. Je trouve intéressant, lui, ce qu'il dit, c'est que sous ayahuasca, t'as littéralement ton mental qui se déploie devant tes yeux. Donc en gros, t'as un recul tel sur toi que tu vois comme tu penses, et c'est ça qui rend l'expérience, si tu veux. C'est un espèce d'énorme reboot mental où tu vois, tu te dis, mais en fait, ok, je pense ce truc, mais je suis pas ma pensée. Tu te détaches quelque part de ta pensée et tu comprends que tu n'es pas ta pensée, que t'es un truc beaucoup plus profond. Voilà, on arrive sur la fin. Petite conclusion. Je vais vous la lire histoire que ce soit un peu plus fluide parce que je l'ai écrite et puis je la trouve assez cool. Terence McKenna pense que ces rites ancestraux, donc l'ayahuasca et aussi d'autres rites, t'en as plein, j'ai pas parlé de la DMT, mais en réalité l'ayahuasca en fait c'est de la DMT. Sauf que la DMT c'est une des quatre grosses catégories de psychédéliques qui te file un trip de 10, 15, max 20 minutes. Et où en gros, t'as juste l'impression d'être propulsé de ton corps, tu vas dans un autre endroit, tu parles à des dieux, et ensuite tu reviens dans ton corps après 15 minutes, et t'es normal en fait. T'as pas de gueule de bois, t'es juste 100% normal. Et tous ceux qui prennent de la DMT, ils se retrouvent là-bas et ils vont parler avec ces dieux-là. Donc voilà, juste un truc de taré. Et en gros, l'ayahuasca, et la DMT, faut la fumer. Si tu manges de la DMT, ça te fait rien. Par contre, si tu manges de la DMT et que tu prends une autre molécule avec, qui est la molécule qui se trouve dans la deuxième plante, qu'on met pour construire l'ayahuasca, et en gros, la DMT ingérée fait un effet et le trip dure 5 à 10 heures plutôt que 10-15 minutes. Donc en gros, c'est un trip de DMT un peu modifié. Et voilà, donc bref. Terence McKenna pense que ces rites ancestraux qui nous offrent une expérience directe et vivide de notre connexion avec ce qui nous entoure manquent dans notre société. Sans eux, on reste aveugle à l'interconnexion qui existe entre nous et le monde. De là résultent les crises existentielles, la destruction de notre environnement et le déséquilibre social. Il pense que la réintégration de ces rituels dans le monde moderne pourrait être en partie la solution à ces problèmes. Les psychédéliques, qu'on appelait avant les années 60 des consciousness expanding, donc des substances qui provoquent l'extension de la conscience, vont d'après lui s'intégrer dans notre culture avec des fondations solides et devenir une partie intégrante de notre santé mentale future et de notre quête spirituelle. Je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vais partir coacher ces mecs-là. Je vais éviter de leur parler de psychédéliques. Voilà, c'est à nouveau, prenez pas des drogues. C'est vraiment le truc le plus, la phrase la plus débile. Il y a des manières intéressantes de prendre des drogues. Si vous voulez genre tester des trucs, je vous recommande un livre du neuroscientifique Carl Hart qui s'appelle Drug Use for Grown-Ups. Du coup, qui vous... En fait, c'est un professeur en psychologie et un neuroscientifique. C'est un mec bien solide qui... Alors le livre, je ne l'ai pas trouvé ouf parce qu'il y a pas mal de... En fait, le mec, c'est un Renoir. Et il parle beaucoup, genre de... Enfin, il a mélangé, je trouve qu'il a beaucoup mélangé dans son livre l'histoire de discrimination vis-à-vis des Noirs et l'histoire des drogues. En fait, et quand je lisais des trucs de discrimination vis-à-vis des Noirs, j'étais là, ok, ben merci, mais c'est pas pour ça que j'ai acheté ton livre, en fait. Mais dans ce livre-là, il y a pas mal de trucs intéressants concernant beaucoup d'histoires, beaucoup d'études qui ont été faites vis-à-vis de qu'est-ce que c'est que l'addiction et qui remettent un peu en question plusieurs notions qu'on a qui sont pas complètement ouf. Vis-à-vis de ça, des notions complètement fausses. D'ailleurs, la théorie de l'addiction, voilà, genre les rats, la cocaïne, c'est juste, vous connaissez l'histoire de Rat Park, je sais pas, j'en ai pas parlé, bref, j'ai pas le temps, on en reparlera un autre jour, je vous souhaite une excellente journée, n'oubliez pas de me mettre un like sur la version YouTube, de vous abonner, de partager le truc sur les plateformes d'écoute et tout, de mettre des étoiles, tous les trucs comme ça, je vous embrasse, prenez, est-ce que ça filme toujours ? Ouais, prenez vraiment soin de vous, et on se retrouve une prochaine fois. Adios.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.